Bonsoir à tous. Idée saugrenue, pas compétent, je n'aimerais pas faire ça. Quand Éric Dupond-Moretti riait de s'imaginer ministre de la Justice, archive cocasse pour son premier jour en tant que garde des Sceaux. L'ex-avocat assure par ailleurs qu'il n'y a pas de guerre avec les magistrats. Premier déplacement en ce moment à la prison de Fresnes. Visite au commissariat des Mureaux pour son collègue de l'intérieur Gérald Darmanin. Tous les deux appelés à la démission par le collectif féministe Nous Toutes. Au sommaire également ce soir, quatre grands axes pour un gouvernement de 600 jours et d'abord la relance économique, vous entendrez Bruno Le Maire, le président brésilien Bolsonaro, positif au Covid, l'épidémie oblige Tati Barbès à fermer à Paris, une très rare sculpture de Calder aux enchères demain à Paris et puis au téléphone sonne, bonsoir Claire Servajan.
Bonsoir Sébastien Pao.
Le bac 2020.
Absolument, plus de 91% de réussite avant le rattrapage, on vient de l'apprendre, autant dire que c'est un millésime exceptionnel, le bac 2020 restera dans les annales. Contrôle continu avant l'heure, comme si le virus avait accéléré la réforme. Il n'en reste pas moins beaucoup de questions sur la façon dont les candidats ont été notés, dont les jurys ont harmonisé les notes. On en parle au 01 45 24 7000.
A tout à l'heure dans 20 minutes.
France Inter.
16 ministres, 14 ministres délégués et un secrétaire d'État, premier conseil du premier gouvernement Castex cet après-midi à l'Élysée, avec donc deux membres particulièrement scrutés en cette première journée, ceux qui tiennent les portefeuilles régaliens de l'intérieur et de la justice, Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti. Le ténor du barreau a troqué la robe d'avocat pour le costume de garde des Sceaux et pourtant, jusqu'ici, il n'en était pas question. Voilà ce qu'il répondait quand on lui posait la question il y a 2 ans.
Sûr ?
Ah oui, sûr. Vous voulez que je vous le signe ?
Ouais.
D'abord, personne ne me le proposera. Ce sera un bordel. Mais alors, personne n'aurait jamais l'idée. Sotte, totalement saugrenue, incongrue, invraisemblable de me proposer cela. Et moi, franchement, je n'accepterai jamais un truc pareil, non. Il faut en avaler des couleuvres pour faire de la politique. D'abord, il faut être d'accord avec tous les copains du gouvernement auquel on appartient soi-même, c'est-à-dire quoi. Il faut manger son chapeau de temps en temps. Non, c'est une discipline. C'est un exercice, j'en ai pas les compétences. Et puis... Non, pas du tout, j'aimerais pas faire ça.
Éric Dupond-Moretti sur LCI en avril 2018, l'avocat a donc changé d'avis. Bonsoir Corinne Audouin.
Bonsoir Sébastien.
Premier déplacement de ministre à la prison de Fresnes en ce moment, après la passation de pouvoir ce matin. Il dévoile ses projets et il veut rassurer les magistrats.
Oui, c'est un nouvel Éric Dupond-Moretti qui est entré dans la cour de l'hôtel de Bourvalet, place Vendôme, pour la passation de pouvoir. Le costume, bien sûr, mais aussi le discours. Fini la terreur des prétoires. Le nouveau garde des Sceaux se veut rassurant.
Je ne fais de guerre à personne. Je vais adresser un message bienveillant à toute la famille judiciaire, dont je recevrai tous les représentants. Je serai le garde des Sceaux du dialogue et j'accepterai la contradiction dont j'ai toujours été le fervent défenseur.
L'avocat n'est cependant pas loin. Ses priorités, l'indépendance de la justice. Il veut porter la réforme du parquet promise par Emmanuel Macron. Il veut limiter la durée des enquêtes préliminaires et défendre la présomption d'innocence.
La justice ne se rend pas dans la rue, ni sur les réseaux sociaux, ni dans les médias. Et l'honneur des hommes, pas plus aujourd'hui qu'hier, ne mérite d'être jeté aux chiens.
L'orateur s'est aussi ménagé ses effets avec, pour finir, une référence à sa mère italienne qu'il a élevée seule.
Ce moment, Madame la Ministre, est pour moi vertigineux. Je pense en particulier à ma mère qui a quitté son pays d'origine pour fuir la misère. Elle est devenue une Française de préférence et la Marseillaise l'a fait pleurer. Je serai un garde des Sceaux de sang mêlé. Mon ministère sera aussi celui de l'antiracisme et des droits de l'homme. Merci à vous.
Et dernier changement de taille, Sébastien, Éric Dupond-Moretti, qui déteste les réseaux sociaux, vient de créer son compte officiel sur Twitter.
C'est dire s'il a changé, merci Corinne Audouin, et il est donc encore en ce moment à la prison de Fresnes. Gérald Darmanin, lui, a quitté les comptes publics pour l'intérieur. Le sarkozyste de 37 ans mesure l'honneur que lui fait le président de la République, et il assure les policiers qu'il sera toujours à leur côté.
Je veux dire aux forces de l'ordre que comme élu de terrain, je connais leurs difficultés. Leurs difficultés du quotidien dans l'exercice de leur mission, les risques qu'ils prennent pour leur intégrité physique et leur vie, les difficultés aussi face aux attaques de l'autorité qui, chaque jour, gangrènent la République. Que les forces de l'ordre soient assurées de mon soutien total et de la profonde reconnaissance du gouvernement, qui ne doute jamais, à aucun moment, du fait que je serai toujours le premier d'entre eux. que je défendrai tout ce qui peut être défendu, que je soutiendrai tout ce qui peut être soutenu, et que la France et les Français attendent de nous, ici, au ministère de l'Intérieur, que nous soyons un refuge et un exemple.
Gérald Darmanin au micro d'Ariane Grissel avant un déplacement au commissariat des Mureaux dans les Yvelines. Le ministre de l'Intérieur qui recevra les syndicats de police demain ou jeudi au plus tard. Deux ministres en place donc et déjà des critiques contre les propos passés de Maître Dupond-Moretti. Vous les trouverez compilés sur franceinter.fr. Et contre la plainte pour viol qui vise Monsieur Darmanin depuis 2018, même si l'Élysée assure que ce n'est pas un obstacle à sa nomination. Une trentaine de militantes féministes sont venues crier Darmanin démission, Darmanin violeur de ce matin près de la place Beauvau. Et puis le collectif Nous Toutes, Julie Pietri, a symboliquement enterré les deux ministres cet après-midi près de la Madeleine à Paris.
Dupond-Moretti, un anti-féministe. Darmanin, un premier flic de France accusé de viol. Les féministes, toutes vêtues de noir, crient leur rage et accompagnent un cercueil sur les marches de l'église. Sigi, l'égalité femmes-hommes, soi-disant grande cause du quinquennat.
On est extrêmement en colère et on pense que c'est un bras d'honneur en fait fait à toutes les femmes victimes de violences.
Laura Jovignaud, du mouvement Nous Toutes, ne se remet pas de la nomination de Gérald Darmanin à l'Intérieur.
C'est un message fort qu'on envoie aux femmes, c'est que la personne qui est chargée de garantir leur protection et la sécurité, c'est une personne qui a été accusée de viol, c'est une personne sur qui il y a des soupçons de violence sexiste et sexuelle. C'est la honte et c'est pour ça qu'on est là, on est là pour dire que c'est la honte cette nomination.
Nous respectons la présomption d'innocence, ajoute-t-elle, mais le symbole est catastrophique. Autre ministre dans le viseur, Éric Dupond-Moretti, auteur de déclarations sur les femmes que Fatima Benomar des Effrontés a notées sur des affichettes.
Dans l'affaire du Carlton, qui était une affaire de proxénétisme, on avait eu droit à des copains qui s'offrent du bon temps, selon M. Moretti. Quand il y a eu MeToo, il avait juste dit « certaines femmes regrettent de ne plus être sifflées ». Enfin, c'est terrible de nous mettre à la tête de la justice quelqu'un qui, à ce point, s'est positionné contre les luttes contre les violences sexuelles et sexistes.
Les féministes de Nous Toutes, qui demandent sans trop y croire la démission des deux ministres, comptent mener quelques actions cet été avant de revenir en force, promettent-elles, à la rentrée.
Trois femmes sont aussi venues dénoncer un remaniement sexiste quelques minutes avant le début du Conseil des ministres à l'Élysée, seins nus et bouquet de roses à la main. Et puis le nouveau porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a répondu à ces deux nominations tout à l'heure après le Conseil, notamment à celle de Gérald Darmanin, qui fait l'objet donc d'une enquête.
On ne peut pas d'un côté sacraliser la présomption d'innocence en toutes circonstances et considérer que c'est un socle essentiel de notre pays, ce qui est notre cas, je crois, et je l'espère à tous, et considérer qu'il y aurait des personnes qui, par la fonction qu'elles occupent, ne pourraient pas bénéficier de cette présomption d'innocence. Il y a des investigations, elles se tiennent, et c'est normal, on est en état de droit, mais on ne peut pas aller plus loin que ça en considérant que finalement, parce qu'il y a des investigations, une impossibilité à exercer dans un gouvernement.
Gabriel Attal au micro de Laurence Perron.
La nouvelle ministre de la Transition écologique, elle, promet des résultats.
Barbara Pompili demande à être jugée non pas sur ses intentions. L'ancienne membre des Verts, qui a été secrétaire d'État à la biodiversité sous François Hollande, voit l'écologie comme un moteur essentiel du futur plan de relance et l'affaire de tous les ministres du gouvernement. Message entendu à Bercy par Bruno Le Maire, désormais à la tête d'un ministère de l'économie et des finances élargie à la relance. Relance qui sera à la fois verte et industrielle.
Ma feuille de route est simple. Ce sera la relance le matin, la relance à midi et la relance le soir. Ce sera une relance économique qui accordera d'abord toute son attention aux plus petits, à ceux qui font le tissu économique de notre pays, à ceux qui sont les premiers employeurs du pays, les très petites entreprises. Cette relance, elle sera aussi verte. C'est en accélérant la transition écologique que nous renforcerons notre économie. Contrairement à ce que j'entends dire parfois ici ou là, accélérer la transition écologique, décarboner notre économie, ce n'est pas l'affaiblir, c'est au contraire la renforcer, la forcer à trouver de nouveaux moyens de production, la forcer à innover, à se digitaliser, à se robotiser, à trouver des moyens de production qui soient plus économes en énergie et donc plus compétitifs. Enfin, on peut faire la relance et rester soucieux des comptes publics. Là aussi, je ne vois aucune antinomie entre les deux. Il y a en France une véritable interrogation sur les comptes publics, sur le niveau de la dette. Nous y répondrons.
Et la réponse doit être forte, car la crise économique est à la hauteur de la crise sanitaire liée au virus. Delphine Simon, l'OCDE table sur un taux de chômage à la fin de l'année entre 12 et 14%.
Un million d'emplois risquent de disparaître cette année en France et ce chômage, il ne commencera pas à baisser dans le meilleur des cas avant 2021, selon l'OCDE. En trois mois, la crise de la Covid a provoqué un pic de chômage de même niveau que la crise financière de 2008. Premier touché, les bas salaires, les travailleurs en première ligne qui ont couru des risques importants, les indépendants, les temps partiels et les travailleurs temporaires. Dans ces catégories, ils sont presque 40% à avoir perdu leur emploi, mais aussi les femmes, enfin pour les jeunes, l'espoir de trouver un premier emploi ou un stage a considérablement faibli. Des travailleurs moins protégés par l'assurance chômage que les temps pleins et les CDI. Et si le chômage partiel a été généreux en France, le recours réel est plus faible. Il ne concerne en juin que 60% des demandes. Beaucoup de PME renoncent sans doute en raison de la complexité des démarches. Quant au télétravail régulier, il devrait se maintenir. De 3% avant la crise, il atteint aujourd'hui en France 30%, 50% en Suède et même 60% au Royaume-Uni et aux États-Unis.
La nouvelle ministre du Travail, Elisabeth Borne, confirme qu'elle récupère la réforme des retraites qui dépendait jusqu'ici de la santé. La santé où Olivier Véran reste en poste. Les négociations sur les salaires des personnels hospitaliers ont repris depuis une heure au ministère.
L'épidémie, elle, a eu raison du dernier magasin Tati de France.
L'historique enseigne Vichy Rose du boulevard Barbès à Paris, ouverte en 1948 et qui va fermer ses portes à cause de la chute de ses ventes de plus de 60% depuis l'automne dernier. Bonsoir Jean-François Fernandez.
Bonsoir Sébastien.
Les clients et les salariés, Jean-François, sont abasourdis.
Eh bien oui, dans le magasin, les clients sont assez rares. On est loin de l'image de Tati avec la foule. Le seul endroit où il y a du monde, finalement, c'est aux caisses, dans les rayons. Difficile de trouver des employés. En arrivant ce matin, ils ont été convoqués au bureau pour apprendre la décision de fermeture sans pour l'instant de date de fin. Certains ont même pleuré. Marie-Thérèse est à quelques années de la retraite. 37 ans de maison, elle a connu la belle époque.
C'est ça, la famille Waki, j'ai connu tout le monde, hein, j'ai connu tout le monde, là, franchement, là, c'est dur. C'était le dernier, en plus, franchement, on n'y croyait pas, non. Franchement, on pensait qu'on allait pouvoir rester, mais... Puis là, avec le Covid-19, ça peut arranger les choses, hein, je pense que...
Marie-Thérèse et ses collègues n'ont pas réussi à déjeuner ce midi, le cœur trop serré. Alors, pour les clients, c'est aussi une nouvelle qui a surpris. Rose, une habitante de Barbès, sort du magasin avec un fameux sachet Vichy.
C'est dommage parce que ça va manquer dans le coin. C'était une institution et puis du coup, ça va manquer. Ça va plus avoir la même configuration Barbès. Barbès sans Tati, ce n'est plus Barbès. Voilà, ça va être triste.
Les lettres Tati en bleu sur fond blanc, boulevard Rochechouart, c'est comme le M de métro, un symbole dans le quartier. Le magasin drainait beaucoup de monde avec souvent des difficultés à circuler sur le trottoir. Une époque terminée.
Jean-François Fernandez, merci. L'épidémie de coronavirus qui s'accélère, le pic n'est pas encore atteint pour l'OMS. Plus de 200 000 morts en Europe. La deuxième ville d'Australie, Melbourne, et ses plus de 5 millions d'habitants de nouveau confinés pour au moins 6 semaines. Et puis un cas de plus, au Brésil, le président lui-même, le très coronasceptique Jair Bolsonaro, il avait les symptômes de la maladie Jean-Mathieu Albertini, eh bien le test est positif.
C'est Jair Bolsonaro lui-même qui est venu le confirmer à quelques journalistes à la porte du palais présidentiel. Il a cette fois fait l'effort de mettre un masque qu'il utilise normalement de manière aléatoire, mais à la fin de l'interview, il ne peut s'empêcher de le retirer.
Éloignez-vous un peu, éloignez-vous, juste pour vous montrer ma tête. Je vais très bien, grâce à Dieu. Tout est en paix. Merci à ceux qui ont apporté leur soutien. Je vais très bien.
Il faut dire que le président d'extrême droite s'oppose à presque toutes les mesures de prévention contre la Covid-19. La semaine dernière, il a même imposé son veto à une loi rendant le port du masque obligatoire dans les commerces ou les églises. Du coup, Jair Bolsonaro ne change pas ses habitudes et termine l'interview en minimisant les risques liés à la pandémie.
On va faire attention aux plus anciens. Ceux qui ont des comorbidités, les plus jeunes, faites attention, mais si vous êtes touché par le virus, restez tranquille, parce que la possibilité qu'il vous arrive quelque chose de grave est proche de zéro.
Pas sûr du coup que cette contamination n'ait une quelconque influence sur sa façon de gérer la crise sanitaire qui continue de s'aggraver dans tout le pays. À Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini pour France Inter.
Bolsonaro sceptique aussi sur le réchauffement climatique, malgré les études et les constats. Comme ce dernier du service européen Copernicus, le mois de juin 2020 est aussi chaud que juin 2019, c'est-à-dire plus chaud, le plus chaud jamais enregistré dans le monde. Chaleur exceptionnelle, notamment en Sibérie.
Et maintenant, cette question. Le bac 2020, déjà appelé bac Covid, est-il un bon bac?
Eh bien oui, très bon, d'après les résultats du ministère qu'on a eu il y a quelques instants. 91,5% d'admissions demi du premier coup avant rattrapage. C'est un taux record, c'est presque 14 points de plus que l'an dernier. Le ministère de Jean-Michel Blanquer avait appelé à un esprit de bienveillance. On reparle de tout ça avec vous au téléphone sonne.
Absolument, alors surtout n'hésitez pas à appeler le standard, le numéro 01 45 24 7000.
Le bac en poche ou pas, les congés sont là et certains élèves expérimentent déjà depuis aujourd'hui ce nouveau concept de vacances apprenantes. L'idée du ministère de l'Éducation naît pendant le confinement. Comme ici à la Charprelles-les-Tours, centre de loisirs de la ville de Tours, une centaine d'enfants du CP au CM2 qui vont passer les 15 prochains jours entre tir à l'arc l'après-midi et maths et français le matin. Annabelle Wanek avec des enseignants volontaires.
Donc moi je suis maîtresse Céline.
Céline Lambert est enseignante en maternelle à Tours.
Et je vous ai préparé la classe ce matin pour travailler... Faire un petit peu de mathématiques.
Des mathématiques, oui, mais en vacances. Du coup, la matière est appliquée au thème du jardin.
C'est donner du sens avec des vraies activités. Par exemple, les graines que vous voyez derrière, on va vraiment en planter. Donc, on va vraiment les compter. Compter pour pouvoir planter, ça prend du sens. Compter pour compter, ça peut rester très abstrait.
Céline Lambert est volontaire pour ses vacances apprenantes parce que, dit-elle, elle les aime, ses élèves.
Pour les aider à raccrocher qu'à la rentrée prochaine, ils reprennent le train de l'école plus facilement.
Ce dispositif s'adresse en effet à des enfants qui ont gardé quelques difficultés malgré le déconfinement, comme Kiwan, il a 6 ans.
Pendant le confinement, la maîtresse m'a envoyé des messages pour qu'on fasse des travaux. C'était un travail par jour. Dès que c'était le week-end, c'est ma maman qui m'écrivait des choses pour que je recopie. Je suis venue ici pour continuer à apprendre.
Alors bien sûr, rappelle le directeur académique, on est là pour conforter des apprentissages, pas pour redécouvrir tout un programme. Ces 10 jours, c'est pour lui le petit appoint nécessaire pour appréhender la rentrée sans difficulté.
Reportage signé Annabelle Wanek. Ce rapport de l'ONU sur Idlib, maintenant dernier bastion insurgé dans le nord-ouest de la Syrie, victime d'une offensive de Damas fin 2019, début 2020. L'enquête des Nations Unies parle de nombreux crimes de guerre, Claude Guibal, et de possibles crimes contre l'humanité.
S'attaquer délibérément aux civils pour les terroriser, pour les faire fuir, cibler des infrastructures stratégiques comme les lieux de soins, d'éducation, d'accès à l'alimentation, bref, empêcher toute forme de vie civile. En droit international, cela porte un nom, un crime de guerre. Paolo Pinheiro, président de la commission d'enquête de l'ONU sur la Syrie.
Plus d'un million de personnes ont dû fuir Idlib pendant cette période pour échapper à cette campagne de bombardement et de terreur qui peut s'apparenter à un crime contre l'humanité. Toutes les parties ont vraisemblablement commis des crimes de guerre. Des enfants ont été bombardés à l'école, des parents ont été bombardés au marché, des patients ont été bombardés à l'hôpital et des familles entières ont été bombardées alors qu'elles fuyaient ces attaques.
Les enquêteurs mandatés par les Nations Unies ont visionné des heures de vidéos, mené des centaines d'entretiens pour étudier en détail 52 attaques menées dans la province d'Idlib. L'immense majorité est attribuée aux forces syriennes, appuyées, encadrées par la Russie. Les autres, aux djihadistes du Hayat Tahrir al-Sham, l'ancien front al-Nosra qui a tué, kidnappé, torturé des civils et des journalistes, tous ceux qui refusaient de se plier à sa loi.
On termine avec la vente aux enchères demain chez Arcurial à Paris d'une sculpture de Calder, une rare sculpture fixe de plus de 3 mètres de haut, qui a une histoire pas banale, Corinne Pellissier.
Elle trônait jusqu'ici à l'entrée d'un village de vacances à la Colle-sur-Loup dans les Alpes-Maritimes. Une immense sculpture aux allures de cocotte en acier peinte en noir. Le point de repère parfait pour les touristes, pas toujours conscients d'avoir à faire une œuvre d'art de cette envergure. Hugues Sébillot, le directeur des ventes d'art contemporain chez Arcurial, en a fait la pièce phare de ses prochaines enchères. Revenons sur le passé pas banal de ce stabile d'Alexander Calder.
À la base, ce village vacances était construit avec un cahier des charges assez précis de faire en sorte que les gens s'habituent à voir de l'art contemporain et de s'éduquer un peu l'œil. Et donc les gens qui arrivaient dans ce village vacances découvraient un Calder au milieu de tout ça.
Une œuvre monumentale de 800 kilos et 3,50 m de haut, quasi sœur jumelle de celle effectuée en 1958 pour le siège de l'UNESCO à Paris, qui devrait impressionner les collectionneurs fortunés, car très peu de stabiles de cette envergure arrivent généralement sur le marché des enchères.
Le public est large, hein, parce que c'est une œuvre qu'on qualifie de monumentale, mais qui a des dimensions, je dirais, qui restent malgré tout raisonnables. On peut la mettre dehors, on peut la rentrer. Ça peut correspondre en effet à une institution, siège social d'entreprise, qui par exemple a un bâtiment avec une entrée assez large. Il y a beaucoup aujourd'hui de collectionneurs qui font des collections de sculptures dans les jardins.
En attendant la vente prévue demain, le stabile est installé dans la cour de l'immeuble Arcurial, près du rond-point des Champs-Élysées. Pour le déplacer, l'acheteur devra prévoir une grue.
et elle est estimée tout de même, cette œuvre, à plus de 2,5 millions d'euros. Et puis pour voir d'autres belles choses, cette fois dans l'esprit David Hockney, rendez-vous sur les sites du Théâtre du Châtelet, du Centre Pompidou et de France Inter, partenaire du concours de dessin organisé pendant le confinement. Dessiner l'espoir au printemps à la manière du peintre britannique. Près de 3,000 artistes ont envoyé leurs œuvres du monde entier. Les 25 gagnants sont à retrouver sur franceinter.fr et leurs travaux seront exposés début septembre au Théâtre du Châtelet. Le temps.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Bonsoir Élodie Calac.
Bonsoir à tous.
L'été s'installe, Élodie.
Oui, les températures gagneront encore quelques degrés demain, souvent 8 à 15 degrés le matin, jusqu'à 22 pour le sud-est. L'après-midi, il fera 19 degrés à Boulogne-sur-Mer, 21 degrés à Brest, 27 degrés à Paris, 28 à Strasbourg et à Angers, 30 du côté de Dijon, Toulon ou Bastia, 31 à Lyon et à Bordeaux et jusqu'à 34 degrés pour Nîmes.
Beaucoup de soleil.
Oui, sur une grande partie du pays, en effet, beaucoup de soleil. Alors, il faudra quand même composer avec quelques nuages en montagne l'après-midi. Et puis, surtout, on aura une dégradation nuageuse qui s'installera sur l'extrême nord du pays. De la Bretagne vers l'intérieur de la Normandie, l'Île-de-France, le Grand Est, vous aurez quelques passages nuageux, encore de belles éclaircies. En revanche, ce sera souvent gris près de la Manche et sur les Hauts-de-France, ainsi que jusqu'aux Ardennes, avec de la pluie sur le Nord-Pas-de-Calais.
Élodie Calac, Météo France, merci.